La voix des jeunes.
Développer notre esprit critique et notre regard sur la société.
Favoriser notre capacité à communiquer efficacement.
À nous exprimer.
Mais aussi à écouter.
Comprendre les médias.
Prendre confiance en soi. Apprendre à gérer notre stress et nos émotions.
Partager nos opinions.
Savoir collaborer.
Tout en nous affirmant.
La voix des jeunes.
Le programme radiophonique d'Info RC.
Radio associative en milieu scolaire.
Bonjour et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur Info RC. Et merci à tous de suivre les programmes de notre radio associative en milieu scolaire. Nous allons écouter un podcast réalisé par des élèves de seconde 2 du lycée Marcel Gimond. Ce projet est né d'un travail autour des migrations. En géographie, les élèves ont étudié les différents acteurs, les causes et les enjeux des migrations, tout en développant des compétences psychosociales telles que l'écoute, l'empathie ou encore l'expression des émotions. En français, ils ont découvert le film Flee, lu des textes consacrés à l'exil, puis participé à un atelier d'écriture pour imaginer et raconter le parcours singulier d'une personne en migration. Après plusieurs heures d'écriture, ils ont prêté leur voix à ces récits avant de réaliser eux-mêmes le montage sonore. Je vous invite à écouter maintenant l'histoire de Sidna, écrite et racontée par Emma et Jeanne.
Une vie, chapitre 1. Je m'appelle Sidna et je vais vous raconter mon histoire. J'ai aujourd'hui 20 ans et j'habite avec mon petit frère de 14 ans dans le centre de Londres. Mon histoire commence quand nous habitions à Alep, en Syrie, et que la guerre déformait les paysages de notre ville. Un matin, nous avons été réveillés par le bruit des bombes sur l'immeuble voisin. Mon cœur s'est serré, ma mère en pleurs est venue nous chercher avec des sacs remplis de nos affaires et nous a dit « Il faut partir les enfants, vite !»
Alors, nous avons pris nos bagages, avons lancé un dernier regard à notre appartement que nous étions sûrs de ne pas retrouver, et partîmes en urgence. Nous avancions à pied vers la mer en essayant d'éviter les contrôles et les attaques ennemies. Nous passions à côté de paysages déformés par les flammes ou les bombardements et des corps entassés. J'essayais de cacher ces scènes d'horreur à mon petit frère en lui racontant des histoires, mais j'étais moi-même horrifiée.
Le premier soir, nous nous sommes arrêtés dans un champ, cachés par les cultures, afin de dormir, de faire nos besoins et de reprendre des forces. Pendant cette journée de marche, j'avais senti de grosses crampes au ventre et je m'étais rendu compte que j'allais devoir supporter mes règles durant le reste du voyage. Ni moi ni ma mère n'avions pensé à prendre des protections. Je devais donc me débrouiller seule, avec des feuilles, sans me plaindre et en faisant attention de ne rien tâcher. J'étais déjà fatiguée par la route, mais cet inconvénient en plus m'abaissait le moral. Je n'en pouvais déjà plus de la situation.
Le lendemain, nous reprîmes la route, épuisés de n'avoir pas pu dormir à cause du stress. Le soir, nous sommes arrivés enfin à un campement sur la côte de Tartous. De nombreuses familles étaient entassées, dormant sur des bâches, maigres et assoiffées. Des enfants pleuraient. Nous nous sommes mis dans un coin et avons dormi pour reprendre des forces avant de trouver un passeur. Je me réveillais le matin, mais avant de bouger, j'entendis mon père en pleine discussion avec ma mère.
Je vais aller travailler sur le chantier à côté sur le port pour essayer de gagner de l'argent, vendre nos affaires. Si nous n'avons toujours pas le compte dans une semaine, nous ferons partir des enfants en priorité.
Keda. Eni serve frate bau, brand sau inditawi, au chantier. Eni ten quiet de bau, nos wai raiferons. Anjor, nos seres tole cauter, au baberes, au, eti libras.
Bien sûr, mais si on n'avait que l'argent pour en faire partir un seul, Kader ne survivrait pas, ce sera Sienna. Prends soin de toi au chantier, ne t'inquiète pas, nous y arriverons. Un jour, nous serons tous les quatre à Paris, heureux et libres.
Oui, Paris fait de la maurité et de l'audio. Nos fiffrins n'auteraient fi raifi, ensemble.
Oui, Paris vive de l'amour et de la joie. Nous vivrons notre vie rêvée ensemble.
J'ai entendu ensuite mon père partir et ma mère commencer à regrouper nos affaires pour les trier. Je me suis alors levée et j'ai souri à ma mère, comme si de rien n'était. malgré la profonde inquiétude que je ressentais. Nous avons passé le reste de la semaine au camp, à vendre le peu d'affaires que nous possédions, mais nous avions réussi à amasser assez d'argent pour nous faire passer tous les quatre. Certes de façon peu sécurisée, mais au moins nous serions ensemble. Quand mon père est entré ce soir-là, ma mère a froncé les sourcils quand elle l'a vu. Il était livide, avait du mal à tenir debout et se tenait la main, qui était recouverte d'un pansement sale et plein de sang.
Ma mère s'est approchée de lui, et ils se sont mis à parler tout bas. J'ai entouré mon frère de mes bras, car j'ai senti son stress, à quelques mètres de mes parents. La seule chose que j'ai entendue a été ce mot, tétanos, mais j'ai appris seulement des années plus tard qu'il avait été la raison du refus de mon père de partir. Il nous a expliqué ce choix, à mon frère et à moi, par le fait qu'il voulait amasser plus d'argent pour notre arrivée à Paris, et qu'il nous rejoindrait là-bas quelques jours plus tard. Mais malgré son sourire forcé, j'ai vu la douleur dans ses yeux et les pleurs silencieux de ma mère, et j'ai su que c'était un pur mensonge, que mon père ne connaîtrait jamais la France.
Chapitre 2. Le jour suivant, nous avons rejoint le passeur sur un port, à l'abri des regards. Plusieurs familles étaient déjà présentes. Dès que j'ai vu le bateau sur lequel nous allions partir, j'ai pris peur. Nous étions déjà une vingtaine et le bateau pneumatique n'était sûrement pas apte à accueillir autant de personnes. On s'est mis dans un coin et on a dit au revoir à notre père. Il a d'abord embrassé mon petit frère et lui a murmuré qu'il l'aimait. Malgré ses mensonges, mon frère avait compris. Il a fondu en larmes. Ma mère, qui se retenait jusque-là, a fait de même. Il l'a prise dans ses bras et a baissé la tête. Il s'est détaché ensuite et est venu vers moi. Il m'a enlacé et m'a chuchoté.
Brand sound ditawi ditan frariti ditawmer. Jace raito drz lau portui, buhem borte sei jaysui luenuyu lauot. جاي سادس كايتو وايجراي فراو سيتي كايتو سيريزان بور سينا فاور ميدبيل كيري سيرسافي جاي تيان موفي.
Prends soin de toi, de ton frère et de ta mère. Je serai toujours là pour toi, peu importe si je suis loin ou là-haut, je sais que tu y arriveras et que tu seras une personne formidable qui réussira sa vie, je t'aime ma fille.
جاي تيان, papa, جاي سراي لا ميلر پرسن اي پاسيبل پور توي. Tu vas me manquer.
Je t'aime papa. Je serai la meilleure personne possible pour toi. Tu vas me manquer.
Il a parlé ensuite bas à ma mère et a séché ses larmes. Entre-temps, une autre famille venait d'arriver. Nous étions au complet, 33, et le passeur nous a appelés. Ma mère était agitée, et le stress ressenti par toutes les personnes présentes était étouffant. Un bébé criait, sa mère tentait tant bien que mal de le calmer. Nous avons pris la mer quelques minutes plus tard, et nous étions tellement serrés dans le petit bateau que nous n'avons même pas pu faire de geste à mon père.
Les jours suivants ont été les pires de ma vie. Les gens mouraient les uns après les autres, et le bébé pleurait énormément. Il a fini par mourir lui aussi, et la vision de la mer le déposant sur les vagues qui tapaient contre la coque m'a fait pleurer encore des années après, cette vision ayant brisé mon cœur d'enfant. Chapitre 3.
Ce matin-là, lorsque le soleil s'est levé, nous n'étions plus que 12. Rester éveillé était de plus en plus dur. Kader tremblait de fatigue et de froid, et je voyais bien que malgré ce que ma mère disait, elle était de plus en plus faible. Tout à coup, un des passagers a crié dans une langue que je ne connaissais pas. J'ai regardé alors l'endroit qu'il montrait.
Maouman. Enf. Nos waïsaum zéraïfs, c'est la France.
S'écria mon frère. L'espoir était revenu. Tout le monde s'est mis à pleurer de soulagement. Il ne restait plus qu'une centaine de mètres avant d'arriver sur la terre. Moi, je restais perplexe. J'entendais un bruit étrange, comme un bruit de moteur. J'avais raison. Un bateau se dirigeait vers nous. Dans un haut-parleur, le capitaine du bateau criait
« En approquets pas restez où vous êtes. Vous ne pouvez pas s'accoster ici. »
Nous avons compris alors que nous nous étions trompés. La France était encore loin. Le désespoir pouvait se lire sur les visages des survivants. J'ai pris alors mon courage à deux mains et je leur ai dit
« Andi roi, mazel ma salinesh, walakin fransa mazel ma abhida shalina. »
Nous allons y arriver. Ce n'est pas encore fini. La France ne doit pas être loin. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Tout le monde me regardait avec pitié. Pour eux, tout était fini. Ils n'y croyaient plus. Au fond de moi, je savais que c'était encore possible. Alors je restais éveillée, à regarder au loin. Chapitre 4. Je ne comprenais pas ce que j'imaginais être du français. Elle a fait de grands gestes et m'a aidée à me relever. Elle s'est dirigée vers ma mère et mon frère et les a aidés eux aussi à se relever. C'est à ce moment que j'ai vu les corps de tous les autres réfugiés allongés. Je ne savais pas s'ils étaient encore vivants, mais de toute façon, il fallait partir, et vite. Nous sommes partis avec la femme qui nous a emmenés dans sa voiture et nous a donné à boire. Cela faisait plusieurs jours que nous n'avions pas bu et mangé. Nos corps étaient faibles et affamés. La femme a voulu aller chercher les autres survivants, mais alors on a entendu les sirènes de police. Elle s'est rassise avec résignation et s'est mise à nous parler en anglais. Elle nous a expliqué qu'elle s'appelait Jasmine et qu'elle allait nous aider. Ma mère était incapable de parler. J'expliquais donc notre souhait d'aller à Paris et tout le parcours qu'on avait dû faire pour arriver jusqu'ici. Elle s'est mise à pleurer plusieurs fois au milieu du récit. Elle a fini par nous conduire chez elle. Arrivée dans son appartement, nous avons mangé et sommes partis nous coucher.
Nous nous sommes réveillés un jour après, enfin reposés. Jasmine nous a offert à manger et nous a expliqué qu'il fallait qu'on démarre une procédure de demande d'asile. Elle nous a expliqué que les autres personnes de notre embarcation avaient été arrêtées et allaient sûrement être envoyées en Syrie. Nous avons passé la journée à dormir et à manger. Jasmine était d'une gentillesse sans pareil. Le lendemain, elle nous a emmenés tous les trois à la structure d'accueil des demandeurs d'asile pour un premier rendez-vous. On a pris des photos de ma mère, de mon frère et de moi, Jasmine nous accompagnant tout en restant sur le côté. On a parlé quelques minutes avec une dame. Elle ne comprenait pas bien notre accent et nous regardait avec une moue désapprobatrice. Elle nous a fait remplir un questionnaire dont je n'ai compris que la moitié, qu'elle m'a traduit au minimum en soufflant. Jasmine a fini par faire la traductrice, mais la dame, peu intéressée, nous a congédiés d'un mouvement de la tête. L'homme qui nous avait pris en photo juste avant nous a raccompagnés et nous a dit gentiment qu'on aurait la réponse dans quelques jours.
Chapitre 5. 3 jours passèrent. Nous étions constamment dans un état de stress quand nous entendions le téléphone sonner ou quand le facteur passait déposer le courrier. Ce jour-là, quand Jasmine est rentrée du travail, elle tenait une enveloppe dans la main. C'était la réponse. Nous nous sommes assis sur le canapé tremblant. Elle a ouvert l'enveloppe et là, silence. Elle s'est décomposée. L'asile était refusé. C'était la fin du monde, de notre monde. La fin de notre rêve, la fin de Paris, la fin de la France. Nous ne pourrions plus jamais être libres. Il fallait trouver une solution, et vite. Jasmine nous a alors proposé de nous emmener en voiture jusqu'à Paris. C'était pour nous notre seule chance de rejoindre l'Angleterre et de pouvoir tenter une autre demande d'asile. Nous sommes partis le lendemain matin. Elle nous a donné de quoi manger et boire pour quelques jours. Nous avions 10 heures de route en comptant les nombreux arrêts. Le trajet a été long, mais nous pouvions nous reposer sur la banquette arrière. Arrivés à Paris, notre déception de ne pas être acceptée en France était encore plus dure. La capitale était magnifique. Nous avons dû dire au revoir à notre hôtesse qui nous a laissé à une de ses connaissances afin de nous emmener au bord de la Manche. Les adieux ont été très difficiles. Elle nous a sauvé la vie. Nous étions émus par sa gentillesse et très tristes de la quitter. Nous avons rejoint son collègue et elle est partie de son côté, les larmes aux yeux.
Il a commencé à nous expliquer comment le trajet allait se dérouler. Notre sang s'est glacé au fur et à mesure qu'il énonçait les règles.
Interdit de respirer pendant les contrôles s vaus or s un sac plastique chacun, des q le camion s'arrête, vaus el enfilis et vaus ni el enlevis par tant q le camion enist par reparti.
Interdit de respirer pendant les contrôles s vous aurez un sac plastique chacun, dès que le camion s'arrête, vous l'enfilez et vous ne l'enlevez pas tant que le camion n'est pas reparti.
Ma mère s'est alors mise à pleurer doucement et s'est tournée vers moi. Je savais qu'elle était faible depuis notre arrivée en France, mais devant moi, à ce moment-là, elle me semblait plus mourante.
J'ai ni bauré bebao maucheri, j'ai soi de saoul, j'ai soi trop faible, et j'ai ni chendrati bebao, j'ai préféré rester ici, j'ai fait imen saouter ni fou in poétes bebao. J'ai comme certaoui, brend saouin de maun fils, et quand fou auras la nationale et lati mauyens, j'ai fou rejouin drai.
Je ne pourrai pas, ma chérie, je suis désolée, je suis trop faible, et je ne tiendrai pas, je préfère rester ici, je vais m'en sortir, ne vous inquiétez pas. Je compte sur toi, prends soin de mon fils, et quand vous aurez la nationalité et les moyens, je vous rejoindrai.
Non, maman vient ne reste pas là.
Mon frère a accouru vers ma mère et s'est mis à pleurer dans ses bras. Nous allions perdre nos deux parents en moins de 2 semaines d'intervalle. Car comme avec mon père, je savais au plus profond de moi que je ne la reverrais pas. Mais nous devions partir, pour que mon frère ait une vie normale et heureuse. Avec les larmes aux yeux, j'ai promis à ma mère que nous allions la ramener, une fois que nous serions installés. Au fond de moi, j'étais anéantie. Je le savais, nous ne la reverrions jamais. Il fallait maintenant partir sans se retourner.
Chapitre 6. Nous nous sommes installés tant bien que mal dans la benne du camion. D'autres hommes étaient déjà là. Le camion a commencé à rouler. Des secousses violentes nous poussaient, les uns contre les autres. Un des hommes s'est mis à vomir. L'odeur était pestilentielle. Tout à coup, le camion s'arrête. Je regarde mon frère, lui fais signe de mettre le sac et de ne plus respirer. Je fais de même. Mon cœur ralentit peu à peu, l'air ne peut plus rentrer dans mes poumons. Je commence à suffoquer. Tout se mélange dans ma tête, mourir dans un camion, si proche de la fin. Avec mon frère à côté, c'est la fin.
Quand tout à coup le camion a redémarré, j'ai enlevé le sac. Kader a fait de même. Respirez, enfin, nous avions survécu. La suite du trajet a été tranquille. Il n'y a plus eu d'arrêt. Nous sommes arrivés au bord de la Manche quelques heures plus tard. Le conducteur nous a expliqué que nous allions embarquer à bord d'un bateau dans ce même conteneur jusqu'à l'Angleterre. À bord du bateau, nous devions supporter les vagues et les secousses violentes de la mer. La nausée nous gagnait et nous essayions de nous retenir de vomir. Au matin, nous sommes arrivés. Nous nous sommes échappés du conteneur par une trappe au-dessus. Le soleil brillait et c'était une belle journée de printemps. Nous étions soulagés. Enfin, nous étions arrivés.
Aujourd'hui, je vis avec mon petit frère. Notre demande d'asile ayant été acceptée, il y a déjà plusieurs années, nous habitons dans un grand appartement dans le centre de Londres. Et je suis devenue chef de l'association d'aide pour les migrants, ce qui me rapporte un bon nombre d'argent. Nous n'avons jamais revu nos parents, mais nous avons réalisé leur plus grand souhait, celui de réussir notre vie et de rester ensemble, quoi qu'il arrive.
C'était
La Voix des Jeunes.
Un programme radiophonique réalisé en partenariat avec les établissements scolaires Taubena et de sa région.